Il est 18h à Kinshasa, 19h à Bounia dans l'Ituri. Bienvenue à l'écoute de ce journal.
Radio Kapi.
Tout d'abord, les titres. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rejette les accusations de disparition forcée formulées par l'ONG Human Rights Watch. Dans un communiqué officiel publié hier vendredi par le ministère de la Communication et Médias, Kinshasa dément toute arrestation ou détention à caractère politique ou arbitraire imputée aux forces de sécurité. Dans la province du Baouélé, plus de 1000 personnes sont sans abri et passent désormais la nuit à la Belle Étoile dans les villages de Bayoulé et d'Akwa Centre, situés à plusieurs dizaines de kilomètres d'Ango. Selon la société civile locale, un incendie survenu mercredi dernier a ravagé plus de 200 maisons et réduit en cendres tous les biens des habitants. L'invité de ce journal est le médecin chef de zone de santé de Mwenga dans la province du Sud-Kivu, Dr Kos Kenemo. Parle de l'épidémie de choléra déclarée dans la zone depuis la 9e semaine épidémiologique de l'année en cours. Pierre Diassinois assure la technique devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement de la République démocratique du Congo rejette les accusations de disparition forcée formulées par l'ONG Human Rights Watch. Dans un communiqué officiel publié hier vendredi par le ministère de la Communication et Médias, dont une copie est parvenue à Radio Kapi, Kinshasa dément toute arrestation ou détention à caractère politique ou arbitraire imputée aux forces de sécurité. C'est un papier de Richard Junior Kamunga, rendu par Christian Makasinga.
Le gouvernement de la RDC rejette les allégations selon lesquelles les arrestations ou détentions effectuées par les forces de sécurité, y compris celles relevant du Conseil national des cyberdéfenses, seraient motivées par des considérations politiques ou arbitraires. Selon les autorités congolaises, plusieurs personnes mentionnées dans ces rapports ont été identifiées. Certaines ont été libérées, tandis que d'autres ont été présentées devant les juridictions compétentes, conformément aux procédures prévues par la législation nationale, indique les communiqués. Par ailleurs, le gouvernement fait savoir que des visites ont été autorisées, notamment pour les familles des personnes concernées, ainsi que pour des représentants de l'ONG. Dans ces mêmes communiqués, Kinshasa réaffirme son attachement constant à l'état des droits et au respect des engagements internationaux en matière de droits humains. Les autorités affirment également rester ouvertes au dialogue avec les partenaires internationaux et les organisations de défense des droits de l'homme. Cependant, il s'est de rappeler que ce rapport qui a fait réagir le gouvernement a été publié mercredi 11 mars. L'ONG Human Rights Watch y faisait état d'une série de disparitions forcées à Kinshasa et dans ses environs depuis mars 2025. Selon l'Organisation internationale de défense des droits humains, les forces de sécurité congolaises seraient responsables de plusieurs arrestations suivies des détentions secrètes.
Et puis, dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité dans les Grands Nord, les autorités provinciales misent sur le renforcement de la gouvernance locale comme réponse structurelle aux défis sécuritaires. À Beni, plus d'une centaine de cadres de base, chefs de quartier, bourgmestres, administrateurs des territoires et responsables des services de sécurité viennent de participer à une session de capacitation axée sur la gouvernance participative, une initiative qui s'inscrit dans la volonté de rapprocher l'autorité de l'État des populations et de renforcer la coordination à la base pour mieux prévenir les violences. Marc Marofimbo pour plus de détails.
La rencontre organisée jeudi autour du gouverneur du Nord Kivu a porté sur trois thématiques majeures: la sécurité, la gestion de la population et l'assainissement de l'environnement. Pour les autorités, il s'agit de consolider l'action de l'État en outillant davantage les responsables locaux. Parmi les recommandations formulées figurent les ressassements réguliers de la population, l'identification des maisons de tolérance et la localisation des lieux pouvant servir de cachettes aux personnes inciviques, des mesures qui visent à améliorer la traçabilité et la prévention à la base. Josué Kapisa, chef du quartier Nzuma, participant.
Il a insisté à ce qu'au niveau de la base, nous fassions les ressassements réguliers.
Pour le gouverneur du Nord Kivu, le général Evariste Somokakule, la restauration de l'autorité de l'État passe par la compétence et l'éthique dans la gestion publique.
La compétence, c'est le mot-clé. La compétence, c'est aussi l'éthique. Déjà, si vous respectez le code d'éthique qui nous lie tous, vous êtes déjà à mi-chemin sur la route de la compétence.
Afin, les services de sécurité, police et renseignement ont été appelés à renforcer leur collaboration avec les cadres de base et les communautés locales afin de consolider les efforts de l'État dans la lutte contre la sécurité dans les entités urbaines et territoriales du Grand Nord. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Je le disais dans les titres, plus de 1000 personnes sont sans abri et passent désormais la nuit à la Belle Étoile dans les villages de Bayoulé et d'Akwa Centre, situés à plusieurs dizaines de kilomètres d'Ango, dans la province du Bahouélé. Selon la société civile locale, un incendie survenu mercredi dernier a ravagé plus de 200 maisons et réduit en cendres tous les biens des habitants. Les victimes de ces sinistres, dont l'origine reste inconnue, lancent un appel à l'assistance du gouvernement et des organisations humanitaires. Les points avec Isaac Remoyopi.
La situation humanitaire est préoccupante dans les localités de Bayoulé et d'Akwa, situées respectivement à 55 et 30 km d'Ango, dans la province du Bazoulé. Environ un millier de personnes se retrouvent aujourd'hui sans abri après l'incendie qui a consumé plus de 200 habitations mercredi dernier, déclare la société civile. Le drame s'est produit alors que la plupart des parents étaient au champ et que les élèves se trouvaient à l'école, ajoute la même source. Le bilan matériel est très lourd. Meubles, vêtements, biens de valeur et même les provisions alimentaires ont été calcinés par les flammes. Dépourvus de tout moyen de subsistance, les sinistrés lancent un appel urgent à l'aide du gouvernement et des organisations humanitaire dans cette zone enclavée où les conditions de vie étaient déjà difficiles. Conséquence directe, plusieurs élèves ayant tout perdu ne fréquentent plus l'école. Les enfants, les nourrissons, les personnes du troisième âge ainsi que les femmes enceintes sont particulièrement exposées aux maladies faute d'abri et de vêtements pour se protéger contre les intempéries. Pour le moment, les familles épargnées par ces drames, elles-mêmes vulnérables, tentent d'aider les sinistrés, mais leur assistance restait très limitée. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, une opération de déguerpissement menée hier vendredi au grand marché Bakodianga en Mbujimayi a dégénéré en affrontement violent. Le bilan fait état d'un homme blessé par balle et trois autres personnes grèvement touchées, dont un policier, selon les autorités locales. Des explications avec Esther Ndalafina.
Le maire de Mbujimayi explique que les forces de l'ordre étaient déployées pour délocaliser les vendeurs de planches vers le marché Ouetrafa, communément appelé Simis. Sur place, les policiers ont tenté de démonter certains hangars, mais se sont heurtés à une résistance farouche des propriétaires, appuyés par des jeunes du marché. La tension a rapidement dégénéré en jet de pierre. Pour se protéger, un policier a ouvert le feu à balles réelles, atteignant un homme au bras. Dans la mêlée, un agent de police a perdu deux dents et un autre civil a été grièvement blessé. Tous les blessés ont été conduits au centre hospitalier pour recevoir des soins. Cette opération s'inscrit dans une décision prise il y a près d'un an par le maire de Mbujimayi visant à déplacer les vendeurs des planches afin de réduire les risques d'accidents sur l'avenue Kalonji. Si la majorité des commerçants avaient accepté la mesure, un petit groupe continue à s'y opposer, provoquant régulièrement des tensions. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, Piforest, une cérémonie officielle des remises de 82 tracteurs agricoles s'est tenue hier vendredi à Kinshasa. Cette activité marque une étape importante dans le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs engagés dans la restauration des paysages, le développement des chaînes des valeurs agroforestières et l'amélioration durable des moyens de subsistance des communautés locales. Des détails avec Nancy Atambo.
Le gouvernement de la RDC, à travers le ministère de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat et l'unité de coordination du programme d'investissement pour la forêt UCPIF, a réceptionné des tracteurs acquis et livrés par l'UNOPS dans le cadre d'un accord de livraison de produits. La secrétaire générale Pascaline Mbangu Kikumbi a salué une avancée importante pour la mise en œuvre du projet.
Le projet a ciblé sept provinces où les savanes dominent que les forêts.
De son côté, la directrice de l'UNOPS, Mona Jawari, a souligné l'importance de cet appui logistique pour les acteurs locaux.
Étant un partenaire de longue date de la Banque mondiale et du gouvernement de la RDC, on a été contracté pour mener de bout à bout cette acquisition. Ces équipements ont été commandés suite à une procédure internationale.
La Banque mondiale, partenaire financier, par la voix du chargé du portefeuille climat, Patrice Awadogo, a réaffirmé son engagement aux côtés du gouvernement congolais.
La Banque mondiale œuvre auprès du gouvernement de la la RDC pour le maintien de sa couverture végétale, particulièrement le maintien de sa couverture forestière.
Ces tracteurs seront progressivement déployés dans plusieurs provinces pour soutenir les activités des terrains et renforcer la mise en œuvre du programme Piforest.
À Goma, l'organisation Appui aux initiatives communautaires de conservation et de développement durable, AICED, demande aux mères et aux jeunes filles de limiter leur dépendance au plastique pour protéger leur vie. Pour cette organisation, ce sont elles qui, au quotidien, subissent des impacts de la pollution plastique. De la cuisine aux habitudes de consommation, en passant par leur hygiène, les femmes sont appelées à adopter des gestes écologiques simples mais salvateurs. Les points avec Rosalie Zawadi.
Malgré les multiples sensibilisations sur les dangers liés au plastique dans nos communautés, on n'arrive pas à adopter les bonnes habitudes, regrette Faustin Yeboné, directeur de l'organisation AICED. Pour lui, rien ne peut justifier cette absence d'action face aux dangers qui représentent les plastiques qui a envahi notre quotidien.
Quand la vie est menacée, ça devient une question d'ordre moral. Par exemple, vous dites que cet enfant, les gobelets qu'il utilise contient du poison. Vous allez dire non, il faut d'abord amener notre gobelet des substitutions et laisser d'abord l'enfant. Non, là, ça devient une question d'ordre moral, de responsabilité. Et là, on agit vite. Tout est devenu plastique dans les ménages. On mange sur le plastique, on boit sur le plastique, on donne naissance aux enfants sur le plastique. Et lorsque c'est la nourriture au mets, comme on l'a dit, la nourriture chaude dans les récipients en plastique, les emballages en plastique, tous ces additifs-là vont se retrouver dans les aliments et on sera intoxiqué.
C'est référent au thème de la journée des droits des femmes cette année qui appelle à l'action. Monsieur Nyeboné invite les femmes à agir pour leur santé car elles sont les plus touchées par la pollution plastique de par leur anatomie et leurs habitudes quotidiennes. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, à Kisangani, la spoliation du cimetière de Kambakamba dans la commune de Kabondo a franchi les seuils du tolérable. Des maisons, des terrasses et même des boîtes de nuit sont érigées sur des tombes. Situation dénoncée par la synergie des avocats pour le développement durable auprès du procureur général près la cour d'appel de Kisangani. Des explications avec Jacques Moukonkolé.
Face à ce qu'elle qualifie de profanation à ciel ouvert, la synergie des avocats pour le développement durable passe à l'offensive. Dans une correspondance adressée récemment au procureur général près la cour d'appel de la Tchopo, l'ONG dénonce un réseau mafieux bien établi. Selon ce document, le mal est profond. Malgré les alertes passées, les pelleteuses n'ont pas reculé. Pire, l'organisation pointe du doigt des complicités internes au sein de l'administration foncière, de la municipalité et même des services de sécurité et de renseignement. Aujourd'hui, les avocats exigent une enquête minutieuse pour démanteler ce réseau. Leurs recommandations sont fermes. Annulation des titres fonciers illégaux, déguerpissement immédiat des occupants et surtout que l'État prenne ses responsabilités pour sécuriser les lieux de repos éternels. En attendant, à Kambakamba, le repos des morts est troublé par le bruit des chantiers. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
En RDC, la gestion de 0,3% du chiffre d'affaires du secteur minier destiné au développement des communautés locales fait l'objet d'un examen approfondi. Un atelier s'est ouvert hier vendredi ici à Kinshasa pour dresser l'état des lieux du fonctionnement et des réalisations des organismes chargés de gérer ces fonds, communément appelés dots de la première et de la deuxième vague. La rencontre est organisée par le comité de supervision, d'orientation, de suivi et de contrôle de ces mécanismes sous la conduite de la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba, et du ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba. Jean-Marc Matoua qui nous propose un condensé du premier jour de cet atelier.
Dans son intervention, le ministre des Mines, Louis Watoum, a encouragé le bon déroulement des travaux. Il a estimé que cet atelier constitue une occasion importante pour les acteurs concernés de prendre en main la gestion de ces ressources afin de contribuer au développement du pays.
C'est une occasion unique que nous avons ici de prendre le destin de nos populations entre nos mains et développer notre pays. Ici, les moyens sont là. La balle est dans notre camp.
De son côté, la ministre d'État, ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Eve Bazaïba Massoudi, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner la mise en œuvre des conclusions issues de cet atelier ainsi que celle des rencontres à venir.
En ma qualité de coprésidente du comité de supervision, Je tiens à vous réaffirmer mon engagement, notre engagement avec mon collègue, engagement total à vous accompagner dans la mise en œuvre des conclusions, non seulement de cet atelier, mais de tout ce qui va s'en suivre.
Pour sa part, Maître Alice Miri Mokabeti, administrateur directeur général du Fonds national de promotion des services sociaux, s'est réjouie de l'ouverture de ses assises. Selon elle, cette initiative traduit la volonté constante du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de veiller à ce que les ressources issues du secteur minier contribuent efficacement au développement des communautés locales.
Notez que les conclusions de cet atelier devaient permettre d'améliorer la gouvernance et l'efficacité des fonds destinés aux populations des zones minières en République démocratique du Congo. À ce jour, les organismes spécialisés sont installés dans 5 provinces, à savoir les Haut-Katanga, les Lualaba, les Haut-Uele, le Kasaï Oriental et le Nord Kivu, bien que seules les 3 premières provinces aient enregistré des résultats significatifs. Ainsi, sur 46 organismes spécialisés OSDOT installés, répartis comme suit: 23 dans les Haut-Katanga, 19 dans les Lualaba, 1 dans les Haut-Uele, 1 dans le Kasaï Oriental et 1 dans le Nord Kivu. 43 DOT sont actuellement opérationnels. La prison d'Ilebo dans la province du Kasaï fait face ces derniers temps à une surpopulation carcérale préoccupante. D'après des sources locales, cette situation est notamment liée au manque des juges au tribunal des peines de ce territoire. Conséquence, de nombreux prévenus ne sont pas jugés, même certains qui ont été arrêtés pour des faits bénins. La société civile locale plaide auprès des autorités judiciaires pour l'affectation urgente des magistrats afin de permettre à des centaines de détenus dans cette maison carcérale d'être fixés sur leur sort. Des détails avec André Katende Ngalamouloumé.
Construite pour accueillir 100 personnes, la prison d'Ilebo héberge actuellement 128 détenus. Parmi eux, environ 50% sont des prévenus. C'est ce qu'indique Emery Mutombo Kabamba, directeur de cette maison carcérale. Au-delà de cette surpopulation, la prison d'Ilebo se trouve dans un état de délabrement très avancé. Les détenus y vivent dans des conditions difficiles. Selon les directeurs, cela fait déjà 5 mois qu'ils ne reçoivent plus des rations alimentaires. À cela s'ajoutent les manques de soins médicaux et d'autres besoins essentiels. Face à cette situation alarmante, le coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise à Ilebo demande aux autorités judiciaires l'envoi de juges afin que le prévenu soit rapidement jugé, ce qui pourrait aussi améliorer les conditions de détention des prisonniers. Tentatives pour joindre les autorités judiciaires de la province du Kasaï sont restées sans succès. Kananga, André Katende Ngalamoulumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Bénin, le parti d'opposition, les démocrates, a finalement acté la démission de son président fondateur, l'ancien chef de l'État, Boni Yayi. Réunie hier vendredi à Cotonou, la coordination du parti a entériné cette décision et confié la direction à un président par intérim. Une transition en interne qui intervient dans un contexte particulièrement difficile pour la formation politique, absente de la prochaine élection présidentielle du 12 avril prochain. Sans élu local ni député à l'Assemblée nationale, les démocrates se retrouvent aujourd'hui dans une impasse politique.
L'invité.
Notre invité, le médecin chef de zone de santé de Mwenga dans la province du Sud Kivu, Dr Kos Kenemo, parle de l'épidémie du choléra déclarée dans la zone depuis la 9e semaine épidémiologique de l'année en cours. Il s'entretient à Bukavu avec Jean Kassami.
Dr Kos Kenemo Djunga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La zone de santé de Mwenga, l'une des 34 zones que compte la province du Sud Kivu, enregistre aujourd'hui des cas de l'épidémie de choléra. Vous confirmez cela?
Nous tenons à vous signaler que l'épidémie de choléra a été déclarée dans la zone de santé de Mwenga à la 9e semaine épidémiologique de cette année par l'administrateur du territoire de Mwenga. Et cela, c'était après la confirmation biologique de 5 échantillons sur les 8 prélevés. La zone a déjà enregistré à ce jour 28 cas, dont 5 décès, répartis comme suit: 3 dans la communauté et 2 dans les établissements de soins de santé. Les cas ont été notifiés dans 3 aires de santé. Il s'agit de l'aire de santé d'Iganda, aire de santé de Tuseswa et dans l'aire de santé de Kalole.
Comment se fait la prise en charge médicale de malades dans cette contrée où sévit l'insécurité, mais aussi où il n'y a pas d'infrastructure routière pouvant faciliter la riposte contre l'épidémie?
Disons que la zone de santé a déjà bénéficié par rapport aux appuis, d'un appui de la DPS Sud Kivu. Cet appui était constitué de 150 litres de Ranger lactate, de trousses de perfusion et chlore. Malgré l'appui de la DPS en intrant, la zone n'a pas de CTC pour une bonne prise en charge des cas.
Quels sont les facteurs qui favorisent cette explosion du choléra dans la zone de santé de Mwenga?
La couverture de la zone de santé en eau potable est trop faible. Toutefois, les mesures préventives sont déjà mises en place par l'équipe cadre de la zone de santé. Il s'agit notamment de lavage des mains, la chloration d'eau, l'utilisation des latrines hygiéniques et assainissement environnemental. Entre autres, éviter de manger les aliments froids, non cuits, tout ça, et les fruits non lavés, etc.
Y a-t-il d'autres défis auxquels la zone de santé de Mwenga est confrontée?
Bon, il y a un autre défi qui jusque-là n'a pas encore trouvé de réponse. Souffrez que je puisse vous dire que la zone reste encore orpheline. C'est l'une des zones orphelines de 34 zones de santé du Sud Kivu. Et nous pensons que si on a vraiment l'appui d'autres partenaires, nous finirons par mettre fin à cette épidémie.
Docteur Koskine Mujunga, merci.
Merci, c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à cette épidémie.
C'était notre invité, le médecin chef des zones de santé de Mwenga, dans la province du Sud Kivu. Docteur Koskine Mujunga s'entretenait à Bukavu avec Jean Kassami. C'est la fin de ce journal qui a été coordonné par Jude Mister Bilanda. Pierre Diassinois a assuré la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Bonsoir chez vous.